Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
What? Yeah, I am happy.
Regardez, me voilà heureuse en tant que citoyenne américaine. Pour moi, c'est un nouveau départ.
Mais qui a envie de devenir américain aujourd'hui? Eh bien, plein de monde dans l'enthousiasme, comme vous venez de l'entendre, une cérémonie de naturalisation. C'est toujours émouvant. Grégory Phillips vous emmène à assister à l'une de ces cérémonies avec une invitée très particulière d'ailleurs, et ce sera l'escale reportage d'Un jour dans le monde ce soir, sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu, avec notamment un salon du jouet à Dakar, 18h50, la chronique pour tous de Julia Foyce, puisque un homme sur deux est une femme dans le monde. Vous verrez que Julia réécrit la Bible et Titanic, le film, en même temps. 18h55, Le monde à l'envers de Jean-Marc Four, alors que Xi Jinping fête les 40 ans d'ouverture de la Chine. Question, est-ce que plus d'ouverture économique peut se faire sans plus d'ouverture politique? Mais avant nous partons pour l'Ukraine. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Voilà une info à côté de laquelle peut-être vous êtes passé ce week-end en vous disant qu'après tout, l'église orthodoxe ukrainienne, combien de divisions? Ne croyez pas ça, c'est une petite révolution qui a eu lieu. L'église ukrainienne s'est séparée de Moscou officiellement après que le 11 octobre dernier, Constantinople ait reconnu l'indépendance de l'église orthodoxe ukrainienne vis-à-vis du patriarcat de Moscou. Cette séparation a donc été actée par les cloches de la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev qui ont sonné à toute volée. Bonsoir Jean-François Colosimo.
Bonsoir.
Vous êtes historien, éditeur, théologien. Vous avez écrit notamment « Aveuglement, religion, guerre, civilisation ». C'est publié aux éditions du Cerf. Un moment qui est plus un moment politique qu'un moment religieux, et on va y venir évidemment ensemble, une victoire aussi probablement de Porochenko. Je voudrais qu'on revienne au début, un petit peu d'histoire pour éclairer le présent. D'abord, rappelez-nous rapidement pourquoi l'église de Kiev, qui est censée quand même être toujours le berceau du monde orthodoxe, pourquoi est-ce qu'elle était toujours rattachée à Moscou depuis plus de 300 ans?
Alors le monde orthodoxe, c'est 300 millions à peu près de fidèles à travers le monde, qui dépendent de la Nouvelle Rome, la cité que Constantin l'Empereur s'est donnée, Byzance, aujourd'hui Istanbul. Et de là, il y a eu des tas de missions qui sont parties, et principalement vers le monde slave. Et donc, entre l'an 900 et l'an 1000, Kiev, qui est la principauté, la ville la plus importante de cette région, se convertit au christianisme orthodoxe, au christianisme byzantin. Mais voilà qu'en 1453... Constantinople tombe aux mains à des Turcs, que l'ensemble de l'orthodoxie, hein, ça sera le cas évidemment, les Bulgares, les Serbes, les Grecs, tout le monde orthodoxe est complètement recouvert par l'Empire ottoman, et il y a une puissance à peine émergente, c'est la Rus médiévale, la future Russie, la Moscovie, et voilà qu'en fait, cette petite principauté va connaître une aventure impériale formidable, va absorber Kiev, et comme les Russes sont orthodoxes, eh bien pour eux, Kiev c'est leur berceau. Il n'empêche qu'effectivement, parmi les peuples slaves, il n'y a pas que des Russes, il y a aussi des Ukrainiens, et donc l'empire tsariste avançant avale l'Ukraine, qui restera russifiée sous l'Union soviétique, donc aussi avec un fort contentieux linguistique culturel.
On va y venir aussi, ouais.
Et après la chute du mur de Berlin, eh bien le patriarcat de Moscou et de toutes les Russies, c'est la seule entité qui couvre encore tout le territoire de l'Union soviétique. Mais voilà que Constantinople se réveille. En plus qu'il y a un très fort contentieux entre Constantinople et Moscou. C'est que Constantinople a enfin pu faire ce concile pan-orthodoxe réunissant tous les orthodoxes du monde entier en Crète en 2016. Moscou n'y est pas allé. Pourquoi? Parce qu'on est dans une bataille symbolique. Constantinople, c'est le plus ancien. C'est le premier dans l'ordre symbolique. Mais Moscou, c'est le plus fort. Qui, au fond, a la puissance? Celui qui peut aligner le plus de ressources diplomatiques, financières, de plus de troupes, est-ce que c'est Moscou ou est-ce que c'est Constantinople? Mais voilà que Constantinople, au juste j'y arrive,
allez-y,
est aussi dans l'orbe des États-Unis. Et donc l'Ukraine, qui est véritablement ce champ de bataille, n'est-ce pas, entre le Kremlin et la Maison-Blanche, eh bien devient une terre schismatique divisée entre orthodoxes, puisque Constantinople, traditionnellement, représente plutôt une conception libérale de l'orthodoxie, et que Moscou, le patriarcat qui est sorti des décombres, en fait, a fait alliance clairement d'un point de vue diplomatique avec Vladimir Poutine. C'est ça l'histoire.
Alors, il a fallu, pour que le schisme commence, on va dire, il a fallu une étincelle, un élément déclencheur. L'élément déclencheur qui fait que Constantinople dit, parce que au fond, Constantinople et Kiev disent la même chose à Moscou. Ils disent, tiens, regarde, regarde ce qu'on est en train de te faire. Quelle est l'étincelle qui fait que le schisme peut avoir lieu?
Alors d'abord, on a eu une grosse répétition de cette affaire-là, pour dire la vérité, en Estonie, juste avant l'an 2000, où là aussi, pays baltes, pays qui voulait se dérussifier, pays où l'orthodoxie était principalement russe, ce qu'on appelle les pieds rouges, n'est-ce pas, de ces Russes installés dans des pays traditionnellement non russes. Eh bien, déjà en 98, il y a eu un premier schisme entre Constantinople et Moscou qui a été vite résorbé. Mais avec respect évidemment pour les pays baltes, l'Estonie c'est pas l'Ukraine. Le schisme a pu être facilement résorbé parce que c'était une mini crise. Là la crise elle
mini
est...
crise mini pays, maxi crise maxi pays en gros.
Oui, enfin malheureusement mais ça il y a pas de petit peuple.
Certes.
Mais il y a pas de petit peuple, il y a pas de petit schisme, mais en tout cas, ça a été plus facilement résorbé. Là, l'étincelle, elle est assez simple, évidemment, c'est la mainmise russe sur la Crimée, c'est l'intervention russe dans le Donbass. Dans l'Est, qui est particulièrement orthodoxe, alors qu'il faut se rappeler que l'Ouest est catholique, n'est-ce pas? Et donc, par rapport à ça, évidemment, Moscou est apparu, et le patriarcat de Moscou n'a pas su faire autrement, Moscou est apparu comme une puissance dominatrice.
Mais est-ce que ça veut dire, Jean-François Colosimo, que Porochenko lui-même a fait pression, en fait, pour que ce schisme ait lieu, pour que l'Ukraine ait son église indépendante? Est-ce qu'il a vraiment appuyé tout son poids? C'est un monsieur qui est en campagne électorale,
voilà,
les présidentielles,
parfaitement
c'est
raison,
l'an prochain.
Bien vu, je ne vous apprendrai rien. De ce point de vue-là, Porochenko est un opportuniste, c'est un oligarque. Il faut savoir que l'Ukraine, malheureusement, est dans un état de corruption endémique. Et dans un certain sens, dans une corruption plus anarchique qu'en Russie, parce qu'en Russie, la corruption est organisée pyramidalement pour aller vers le haut. Ouais. Donc là, on est en état de corruption totale. Et évidemment, Porochenko joue la carte du nationalisme.
Un pays, une langue, une religion.
Voilà, exactement, un état, une nation, un état, une église. Et il joue de cela. En même temps, Constantinople, le patriarche Bartholomée, qui est le primus inter pares, le premier des orthodoxes, veut mettre de l'ordre assez rapidement dans les affaires de l'Église orthodoxe au point de vue mondial. Pourquoi? Parce qu'il a 78 ans et il ne sait pas du tout ce que deviendra le patriarcat de Constantinople après lui. Et Kirill lui-même, en fait, se conduit...
Kirill, c'est l'autre.
Kirill, c'est celui de Moscou,
patriarcat
pardon.
Moscou.
Kirill se conduit lui-même comme le ministre des affaires religieuses et aussi des affaires religieuses étrangères, parce que c'est ça qui compte. Pour le compte du Kremlin,
alors
de Vladimir Poutine.
Est-ce qu'il y avait effectivement réellement une intrusion du patriarcat Kirill, donc celui qui est russe, dans les affaires ukrainiennes ou pas?
Écoutez, le patriarche Kirill, lorsqu'il a été élu, alors que c'était plutôt un personnage progressiste, libéral, ouvert sur le monde, est devenu non seulement hyper traditionnaliste, rigoriste, mais le jour de son élection, tout son discours n'a pas porté sur la réévangélisation de la Russie, sur la mission, sur la charité, sur la contemplation, etc. Son discours d'intronisation a porté sur le fait que reposait sur ses épaules désormais le fardeau de l'unité des mondes russes, n'est-ce pas? Et cette notion de monde russe, c'est une notion de la diplomatie poutinienne.
Donc il est en train de nous parler du Donbass, de tous ces coins-là, de la Crimée,
la
etc.
La Biélorussie.
La Biélorussie aussi.
L'Ukraine, etc. Encore une fois, le patriarcat de Moscou a des ramifications dans tous les ex-pays de l'URSS, dans tous les pays du bloc de l'Est, et aussi dans d'autres pays, puisque dans le monde orthodoxe, comme culte et culture vont ensemble, on dit russe orthodoxe, grec orthodoxe, évidemment, les églises qui sont présentes à l'étranger fonctionnent comme autant de relais d'influence. Voyez la construction de la cathédrale à Paris, sur les bords de la Seine.
Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que les fidèles vont devoir quoi? Choisir leur église, c'est-à-dire choisir leur patriarcat, choisir l'Ukraine contre la Russie? Est-ce qu'au fond, on risque pas d'accentuer les séparations qui sont là depuis 2014 et depuis la guerre?
Pour l'instant, le Paris de Constantinople a du mal à fonctionner parce que à la plupart des évêques qui étaient présents, qui étaient dans une église autonome mais qui n'était pas indépendante, l'église d'Ukraine, en fait n'ont pas rejoint la proposition de Constantinople, c'est-à-dire qu'ils restent sous Moscou, vraisemblablement parce que le FSB a beaucoup de dossiers sur eux. Mais par rapport à ça, il y a le peuple aussi. Et le peuple reste attaché à son église. Le peuple est très divisé. Ce qui va se passer, c'est que Porochenko, maintenant qu'il a une église nationale, officielle, il va faire passer des lois pour favoriser cette église. Or, il y a tout le problème du partage des monuments historiques, des églises historiques. C'est comme si, au fond, aujourd'hui, le président de la République en France décidait qu'il y a deux catholicismes, un catholicisme français et puis un catholicisme de l'extérieur, à qui donner Notre-Dame. On peut imaginer les bagarres, on peut imaginer les rixes, on peut imaginer que le sang va couler. Et en fait, Vladimir Poutine lui-même peut saisir cette occasion qui lui est très défavorable, en principe, pour la renverser et pour propager la guerre du Donbass jusqu'à Kiev.
Alors, vous parlez effectivement de sang qui coule. Il y a déjà eu un cocktail Molotov contre une église ukrainienne. C'était au mois de novembre. Il y a des espèces d'instants de provocation comme ça. Est-ce que ça peut aller
et
beaucoup plus loin
et encore plus loin ? Vous savez très bien, peut être parfaitement manipulé.
Bien sûr.
Et des deux côtés. On a vu des évêques qui étaient requis, manu militari, d'aller au concile fondateur, n'est-ce pas, de cette église nationale ukrainienne, par les services secrets ukrainiens. Mais les services secrets russes ont la manœuvre. Et puis, d'autres services secrets, sans faire de complotisme, l'Amérique a tout intérêt à ce qu'il y ait une église nationale ukrainienne pour damner le pion à Poutine. Et Poutine, lui, n'en veut pas. Vous voyez, là, la religion et la politique, en fait, sont très proches.
Alors, le patriarche s'appelle Epifan Doumenko, c'est ça, le nouveau patriarche?
Alors, bon,
Est-ce que c'est un pantin de Porochenko? Est-ce que ça existe?
C'est un pantin de Filaret qui, dans les années 1990, n'ayant pas pu devenir patriarche de Moscou, avait créé une église ukrainienne qu'à cette époque-là, personne n'avait reconnue. C'est en fait un homme de Porochenko et il a 39 ans et il s'est surtout distingué jusqu'à aujourd'hui par une forme de chauvinisme, d'hyper-nationalisme, qui s'inspire beaucoup plus, au fond, de l'histoire ukrainienne et de l'ukrainité que de l'évangile. C'est un petit personnage, sans grandeur spirituelle, et surtout qui sera aux ordres.
Est-ce que Poutine craint, malgré tout, que tout ça fasse des petits? Vous aviez parlé de l'étincelle qui avait eu lieu dans les Balkans peu de temps avant. Qu'est-ce qu'on dit du Monténégro? Qu'est-ce qu'on dit de la Macédoine? Qu'est-ce qu'on dit donc de la Biélorussie?
Absolument.
Est-ce qu'il y a cette crainte de la part
la
des
Russes? La
Biélorussie,
non, parce que la Biélorussie est vraiment très attachée à la Russie. Mais d'autres pays orthodoxes, de tradition orthodoxe, craignent effectivement ces sécessions. Le Monténégro, normalement, fait partie de l'église de Serbie, même si le Monténégro ne fait plus partie de la Serbie. Il y a une église autonome en Macédoine. Il y a des questions entre la Roumanie et la Russie sur la Moldavie, qui sont des questions de friction très très graves. On voit en fait que la maladie du nationalisme qui a pris au XIXe siècle dans le monde orthodoxe, sur l'exemple des guerres de révolution nationale européenne. C'est une manière de s'occidentaliser, n'est-ce pas? Mais comme dans l'orthodoxie, on était d'origine byzantine, l'Église et l'État, c'est une même et seule réalité. On a atteint cette diffraction nationaliste. L'affaire d'Ukraine vient s'ajouter à ça. Peut-être que demain, il y aura encore deux ou trois églises orthodoxes en Ukraine. C'est tout le problème. Tout ça profite, pour l'instant, malgré tout, je dirais, à la conjonction, à l'alliance qu'il y a entre le Kremlin et le patriarcat de Moscou. Patriarcat de Moscou qui présente une orthodoxie très rétrograde et avec véritablement le fait que, pour l'instant, l'Église russe a besoin de sortir du rôle instrumental dans lequel elle a été placée, qui est celui de ciment national à l'intérieur et du rayonnement, en fait, d'image et d'influence à l'extérieur.
Et d'ailleurs, vous l'avez un peu évoqué, le patriarche, l'église, comment on dit d'ailleurs, je ne sais pas si on dit une messe,
la liturgie.
La liturgie est faite dans une langue, c'est pas en ukrainien, est faite dans une langue particulière.
La langue slave du Moyen-Âge dans laquelle les Bulgares, les Serbes, etc., et les Russes, et les Ukrainiens, ont été convertis, c'est une sorte de proto-slave qui ressemblerait en fait au latin d'église.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Mais donc, est-ce que ça parle à des gens en Ukraine, ça, ou pas? Est-ce que ça parlait
non,
à des gens,
mais
ou est-ce que c'est justement...
ils vont vouloir ukrainiser. En même temps, dans l'Ukraine d'aujourd'hui, tout n'est pas positif. Ce n'est pas parce que les Ukrainiens souffrent qu'ils ont raison sur tout. Et ils souffrent, c'est sûr. Mais bon, ils sont en train de rebâtir une langue ukrainienne totalement artificielle qui est brandie comme un drapeau de dérussification, alors qu'une des grandeurs quand même de cette culture a été qu'il est très souvent difficile de distinguer entre Ukrainiens et Russes dans la grande littérature russe. Donc là, on crée des barrières culturelles en créant des barrières linguistiques totalement artificielles au nom d'un nationalisme dont on comprend les ressorts, mais qui n'est pas toujours non plus très sympathique, il faut le dire. Derrière les revendications de liberté, il y a parfois aussi, en fait, inconsciemment ou inconsciemment, en fait, beaucoup d'hostilité contre l'ennemi désigné qui est souvent le plus proche. Voilà,
voilà, donc séparation, j'allais dire, de l'Église et de l'État, non, mais de l'Église et de Moscou en Ukraine, très clairement, oui, en tout cas.
Oui, là, et puis, il faut le dire, un patriarche de Constantinople qui essaie d'incarner une orthodoxie qui a quelque chose à dire à la modernité.
Et on verra ça ensemble par la suite. Merci beaucoup, passionnant, Jean-François Colosimo, historien, éditeur théologien. Je rappelle que vous avez écrit « Aveuglement, religion, guerre, civilisation » et c'est publié au CERF.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Et la suite d'Un jour dans le monde vous emmène dans une cérémonie de naturalisation américaine avec la juge de la Cour suprême la plus rock'n'roll, Ruth Bader Ginsburg. Et vous allez voir, c'est aussi très émouvant. Ce sera l'escale reportage sous les radars et Émile Perrier à Dakar avec le salon de la poupée noire. Elle vous racontera aussi une histoire de Ken plus Ken aux États-Unis. Et tiens, ça vous fera plaisir. Bonsoir Julia Foss.
Bonsoir.
C'est vraiment une histoire pour vous. Il faudra rester. En attendant, avec vous, on réécrit Titanic alors.
Oui, avec moi, le Titanic va peut-être avoir quelque chose à voir avec la Bible. En tout cas, dans mon esprit, parfaitement dérangé, comme chacun sait.
Ben voilà, on reste donc côté religion, et c'est tant mieux comme ça, 18h55, le monde à l'envers, la Chine, Jean-Marc Four et Xi Jinping qui a fait un discours pour fêter les 40 ans d'ouverture, mais la Chine doute aussi,
bonsoir,
Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous, absolument, ne pas se fier aux apparences, la Chine paraît unie en façade, en coulisses, c'est plus compliqué.
Allez, le tour de la planète continue sur France Inter, il passe par la Roumanie, le Nigeria et l'Allemagne en même temps avec Ayo, Down on My Knees. Non ? Ah bah c'est McCartney, me dit-on. Pardon, Paul McCartney. Oh bah j'entends non de l'autre côté. Hand in hand. Allez, vas-y Paul.
Wanna give you my heart. Wanna tell you my story. Gonna take you to another level, you and me. Wanna give you my word. Let me give you my promise. I will try to make it happen, you can guarantee. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand. Let me enter your light. Wanna show you my passion. We can make each other happy if we get it right. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, taking our time and making a stand. We can make this dream come true, only if we want to. We can make this dream come true. Only when we understand everything in life is planned can we make this dream come true.
Excuse Paul McCartney, c'était formidable. Hand in hand sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
sous les radars et Amélie Perrier. Amélie, avec cette question, et si le Père Noël manquait un peu d'ouverture d'esprit?
Ah oui, la question revient sous toutes les formes à une semaine de Noël, en particulier à propos des jouets offerts aux enfants. Ainsi, à Dakar, au Sénégal, un salon du jouet éducatif et de la poupée noire vient de se tenir. Il a été créé par une Camerounaise installée là-bas, elle s'appelle Madeleine Aïssi.
Voyant l'absence de la poupée noire sur le marché, on s'est dit, il fallait, c'est peut-être ça qui donne le résultat d'aujourd'hui de la dépigmentation des adultes. Parce que quand un enfant s'est attaché à sa poupée de couleur caucasienne, adulte, quelque part, il a envie de ressembler à l'élément qui a été son partenaire depuis la petite enfance. On s'est rendu compte finalement qu'il y avait des producteurs de poupées noires, mais tout simplement que le marché n'était pas exploré. Et c'est là où nous est venue l'idée, en fait, de créer donc ce salon du jouet éducatif et de la poupée noire.
Et la deuxième édition vient donc d'avoir lieu. La question ne se pose pas qu'en Afrique, puisqu'un salon des poupées noires a aussi eu lieu en région parisienne, à Pantin, début décembre. À force d'exposer les fabricants, les organisateurs se félicitent d'avoir aujourd'hui des modèles de plus en plus beaux, car en fait, les poupées noires existent depuis longtemps, mais elles ont souvent véhiculé les préjugés raciaux, parce que fabriquées par des blancs. Aujourd'hui, le mouvement prend de l'ampleur. Pour concurrencer Barbie, on peut trouver des Nubia Kemita, des Kenza, des Kumba, des Binta, des poupées avec des formes, avec des cheveux crépus pour que les petites filles n'aient plus honte de leur physique tellement éloignée de la Barbie de Mattel.
Et décidément, Barbie de moins en moins à la mode. Aux États-Unis, c'est son fiancé, enfin son ex-fiancé Ken qui la laisse définitivement tomber.
Oui, l'idée vient d'un couple homo, Matt Jacoby et Nick Caprio. Ils voulaient offrir à leur nièce Nathalie, 8 ans, un cadeau qui leur ressemble. Alors ils ont acheté le coffret Ken et Barbie se marient. Ils ont enlevé la Barbie et l'ont remplacée par un autre Ken. Et voilà la réaction de leur nièce.
Like you.
Ouais, il vous ressemble complètement.
Je sais pas si c'est un compliment de ressembler à Ken, hein, à moi.
Mais enfin bon, mais il leur ressemble vraiment en plus physiquement, avec leur visage très très lisse. Matt Jacoby a posté ensuite sur les réseaux sociaux la photo de son coffret pour attirer l'attention du fabricant, Mattel. Et le géant du jouet a répondu, rendez-vous est pris début janvier, car pour eux, ce n'est pas que le problème des gays. En fait, comme l'explique Nick à CNN, ça va venir dans vos familles, car plus en plus de couples de même sexe ont des enfants. Vos enfants vont avoir des camarades avec des parents homo dans leur classe. Ce n'est plus cet immense choc comme avant. Et il y a de grandes chances que Mattel adhère à ce couple de Ken. La marque a déjà élargi son catalogue à des physiques plus ronds ou à une Barbie portant un voile musulman, par exemple.
Allez, décidément, l'esprit de Noël n'est plus ce qu'il était.
À Bologne, en Italie, en plein concert de Noël dans l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, voilà ce que la chorale s'est mise à chanter.
Ça vous fait rire. Le chant révolutionnaire dans l'église, mais shocking, quelle horreur!
Ah oui, c'est pas effectivement un chant de Noël, il y en avait Maria, et donc vous avez bien reconnu, c'est Bella Ciao, chant de révolte italien, il date du début du XXe siècle, mais les paroles actuelles ont été écrites en 1944 par les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale contre les nazis et les fascistes italiens. Un hymne de résistance qui n'a pas du tout plu au député local de Forza Italia. L'élu qui a commencé sa carrière politique quand même à l'extrême droite avant de bifurquer vers la droite plus modérée, y a vu une chanson de guerre, source de discorde notoirement de portée politique. Voilà, le dîner de Noël s'annonce un petit peu agité.
Voilà, jamais parler politique pendant le dîner de Noël.
C'est une règle.
Évidemment, c'est une règle. Et ni chanter Bella Ciao, ou en tout cas pas tout de suite.
Bien, mais bon, d'accord.
Allez, merci. À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est aux États-Unis que nous emmène l'Escale Reportage d'un jour dans le monde ce soir pour une cérémonie très particulière, très émouvante aujourd'hui encore. Même si l'Amérique est un pays au climat politique, disons, beaucoup plus difficile aujourd'hui. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Fabienne.
C'est à une cérémonie de naturalisation où vous nous emmenez 31 personnes qui vont devenir américaines devant nous, devant vous. Et franchement, c'est toujours quelque chose à voir et à vivre pour ces gens-là. Cette cérémonie, Grégory, en plus, était patronnée par RBG, Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour suprême des États-Unis, personnage devenu iconique. Vous allez nous emmener donc assister à cette cérémonie qui ressemble, au fond, à une Amérique éternelle, historique, l'Amérique telle qu'on l'aime et aussi telle qu'on la fantasme, accueillante, ouverte aux étrangers qui sont sa richesse.
Otno, Maduri, Jamaica. Shihab, El Kogali, Sudan.
À l'appel de son nom, chacun se lève, passablement impressionné. Il faut dire que le
lieu où se déroule cette cérémonie est en lui-même impressionnant. Dans la rotonde des Archives nationales où sont exposés les documents fondateurs, la Constitution des États-Unis, le Bill of Rights, les 10 premiers amendements et la Déclaration d'indépendance de 1776. Puis toutes ensemble, ces 31 personnes venues de 26 pays différents prononcent le serment d'allégeance.
Everyone who's going to be a new citizen, please raise your right hand and repeat after me the oath of allegiance. I hereby declare on oath.
Et le patron des Archives nationales, David Ferriero, est le premier à féliciter ces nouveaux Américains.
Je suis le petit-fils d'immigrés italiens et l'arrière-petit-fils de gens venus d'Irlande. Beaucoup d'Américains ont la même histoire que la mienne. Et vous aussi, en tant que nouveau citoyen, vous devez partager votre histoire. En devenant citoyen, vous aussi entrez dans nos archives nationales. Vos certificats de naturalisation vont être archivés ici. Et un jour, vos descendants viendront dans ce bâtiment consulter nos registres afin de découvrir votre histoire.
Puis c'est au tour de Ruth Bader Ginsburg de monter sur la petite estrade et de s'adresser à ces hommes et à ces femmes qui viennent d'acquérir la citoyenneté. À 85 ans, RBG, comme tout le monde la surnomme ici, est l'une des femmes les plus puissantes du pays, magistrate à la Cour suprême des États-Unis depuis près de 25 ans. Auparavant, avocate militante du droit des femmes, Bader Ginsburg est devenue au fil des ans l'icône des progressistes américains. Elle a fait l'objet de documentaires, d'un film sur sa vie, de dizaines de livres. On peut même trouver dans les boutiques de Washington des poupées ou des mugs à son effigie. Bref, c'est elle, RBG, qui vient raconter à ces nouveaux Américains son histoire et ce que signifie à ses yeux le fait de devenir citoyen des États-Unis.
Thank you, my fellow Americans. It is my great privilege to welcome you to citizenship.
Mes chers concitoyens, c'est un privilège pour moi de vous accueillir ainsi dans la citoyenneté de ce pays, de cette démocratie que sont les États-Unis d'Amérique. Nous sommes une nation qui a été rendue plus forte grâce à des gens comme vous. Des gens qui sont venus de loin, qui ont franchi de nombreux obstacles et qui ont fait d'énormes sacrifices afin de trouver une vie meilleure pour eux et pour leur famille. Mon propre père est arrivé dans ce pays à l'âge de 13 ans, sans aucun argent et sans parler anglais. Il est devenu comptable. Ma mère est née ici, 4 mois après que ses parents sont arrivés par bateau à Ellis Island. Connaissez-vous la différence entre un petit comptable de New York et une juge à la Cour suprême? La différence est une génération, et j'en suis la preuve vivante. Maintenant, c'est à vous de jouer. En tant que nouveau citoyen, soyez informés, prenez part à la vie de ce pays, votez aux élections et aidez-nous à améliorer encore notre union. Je vous souhaite le meilleur.
À l'issue de la cérémonie, chacun repart avec un certificat et un petit drapeau américain à la main. Tout le monde est convié à un buffet, les familles sont là, on se félicite, on se serre dans les bras, on est ému. Et parmi ces 31 personnes, ces 31 nouveaux citoyens américains, voici dans l'ordre Camille Dananofer-Lafage, venue de France, Maria Milagro Esteban, originaire du Nicaragua, et Amina Abdul Karim, née au Nigeria.
C'est vraiment spécial pour moi d'avoir pu lui serrer la main et d'avoir pu écouter son discours sur la citoyenneté.
L'Amérique est encore un pays accueillant aujourd'hui?
Malgré le climat politique, il y a quand même des éléments fondateurs qui sont toujours présents et je suis ravie de pouvoir en joindre les rangs.
C'était incroyable parce que je me sentais comme si j'avais été mariée ou quelque chose comme ça, quelque chose magnifique comme ça. Je suis nicaraguayenne, mon enfant son était né ici, il a eu la bonne chance, alors je voudrais la même chose pour moi. Pour moi, c'est d'être liberté, de parler et de dire ce que je pense.
Regardez, me voilà heureuse en tant que citoyenne américaine. Pour moi, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie. J'espère pouvoir travailler pour le gouvernement, dans le domaine de la sécurité. Et surtout, je vais pouvoir voter, donner enfin mon opinion.
Comme Camille, Maria, Amina et les autres, environ 700 000 personnes chaque année empruntent le même chemin vers la citoyenneté américaine, avec à chaque fois une cérémonie similaire.
«
Et merci beaucoup, Grégory Philippe. C'est vrai que ça fait du bien de l'entendre, cette Amérique-là aussi. À très vite. Ah ben la voilà, du coup. Ayo, Down on My Knees, c'est bien ce que je disais. À genoux, Ayo, magnifique, Down on My Knees sur France Inter.
France Inter.
So I want all the girls that a new day is on the horizon.
Fabienne Saint-Es.
You're all scared of girls.
Un jour dans le monde.
Me too.
Et comme chaque semaine, Julia Foyce nous rappelle qu'un homme sur deux est une femme. C'est la chronique pour tous avec des nouvelles des femmes dans le monde, des bonnes, des mauvaises. Et cette semaine, dernière chronique avant Noël, Julia, vous nous mettez dans l'ambiance. On commence avec ce qui pourrait être le conte de Noël version 21e siècle.
Avec ce qu'il faut de happy end à la fin. En tout cas, on est en 1989 en Allemagne. Le mur tombe, le pays exulte, enfin réunifié. Et c'est dans ce contexte de joie nationale qu'un homme, une femme, Shabadabada, inscrivent leur nouveau-né à l'état civil. Elle s'appelle Vania et c'est une fille. pendant quelques années tout du moins. La petite Vania grandit et, manifestant quelques troubles hormonaux une fois la puberté arrivée, elle entame une longue série d'examens médicaux, lesquels concluent à l'absence d'un chromosome permettant de déterminer son sexe avec certitude. Qu'à cela ne tienne, se dit la petite fille devenue grande, je m'en vais ferrailler avec l'état civil. C'est que Vania vit dans un pays où l'on peut, depuis 2013, ne pas remplir la case sexe sur ses papiers d'identité. Oui, mais le vide, ça n'est pas la reconnaissance. D'où le combat de Vania qui demande à pouvoir s'enregistrer comme individu de troisième sexe. Que nenni, ça va pas. Pot de balle, répond l'état civil. Je résume, mais c'est à peu près ça. Déboutée, mais debout, Vania s'en retourne alors vers le Conseil constitutionnel qui, lui, somme le gouvernement allemand de réviser au plus vite sa loi jugée discriminante envers les personnes intersexes, entendez, des personnes nées avec des caractéristiques biologiques féminines et masculines, soit entre 0,05 et 1,7% de la population mondiale. En France, elles doivent être rattachées à un genre dans les 5 jours suivant leur naissance. En Allemagne, ça n'est donc plus le cas. Le Bundestag a voté vendredi dernier, c'est le premier pays européen à le faire. Un troisième genre existe désormais, comme en Inde, au Népal et en Nouvelle-Zélande. Quelque chose me dit que Vania va passer de bien meilleures fêtes cette année.
Allez, bonne fête Vania, bonne fête aussi à nous et oui. Ces deux idées cadeaux à mettre
oui,
sous le sapin.
Oui, oui, alors j'en aurai d'autres la semaine prochaine, promis, bah oui. Mais on commence avec celle-là. Si vous fêtez Noël avec Jésus, messe de minuit et crèche en option, j'ai peut-être de quoi vous ressusciter une dinde ou à tout le moins mettre un petit peu d'épices dans la discussion du réveillon. Offrez-vous le best-seller de tous les temps, oui, mais revu et corrigé par MeToo. Inspiré par cette vague féministe mondiale, une vingtaine de théologiennes catholiques et protestantes venues de toute la francophonie publient cette Bible des femmes. Nouvelles interprétations du texte, traductions ajustées, recontextualisation du dogme, etc. Résultat, en dehors des saintes martyrs sacrifiées dans le sang et les larmes et de quelques putains tentatrices, vous aurez aussi la possibilité de croiser dans l'histoire sainte des mères intrépides, des combattantes, des guerrières valeureuses. Et une poule, oui, une poule ramenant ses poussins autour d'elle. C'est l'un des visages de Dieu dans cette nouvelle version de la Bible. Dieu qui aurait donc, ici ou là, un certain nombre de caractéristiques féminines.
Allez, Dieu est une femme, manquerait plus que ça. Elvis, oui, mais Dieu, je suis pas sûre. Enfin bref, deuxième idée cadeau.
Eh bien, je vous dirais que le Titanic est au cinéma ce que la Bible est au papier. Je l'aime bien celle-là. Ouais, et que donc, vous vous offrez ce méga carton absolu de tous les temps planétaires du monde. Mais vous le regardez mieux. Et pour ça, vous faites d'abord un tour sur ce compte Instagram génial repéré par Chick Magazine. The Feminine Critic compile toutes les scènes de sexe les plus cultes du cinéma. Ça va de Nola Darling de Spike Lee à Black Swan de Darren Aronofsky. La conclusion est à peu près toujours la même. Oui, ces films, ces scènes ont bien été écrites par des hommes, filmées par des hommes et jouées accessoirement par au moins une femme. Mais en gros, ça donne. Si on reprend l'exemple de Titanic, Jack et Rose s'aiment mieux, ils brûlent de désir. Jack et Rose visitent les ponts inférieurs du paquebot. Jack montre une voiture abandonnée à Rose et hop là, tout le monde bascule sur la banquette arrière.
Nervous.
Tu es nerveuse?
Non.
Coquine va et elle aime ça, dites donc. Témoin cette main qui, quelques secondes plus tard, à peine se plaque contre la vitre pleine de buée. Gros plan sur le visage en sueur de Rose. J'étais pas là, mais a priori, elle a joui. Et ce, en 2 minutes chrono, trop fort,
mais
le DiCaprio.
Peut-être qu'elle a fait semblant, vous savez.
Ah, et ça, c'est une autre question, Fabienne. Alors, on parlera peut-être d'ellipse cinématographique, de pudeur nécessaire. Sauf que, pourquoi c'est toujours les mêmes phases qu'on zappe? Un truc qu'on pourrait appeler caresse, une suggestion peut-être de l'existence d'un drôle d'organe qui pourrait être le clitoris, je dis bien peut-être. Eh bien ça, jamais. Au cinéma, ça n'existe pas. Et c'est parce que, comme le dit l'Inserm dans son étude Contexte de la sexualité en France, si les comportements changent un peu, nos perceptions, elles, ne bougent pas. Nous continuons à une écrasante majorité à avoir une vision, je cite, hétéronormée et pénétrative de la sexualité. En clair, elle commencerait et se terminerait avec la pénétration. De là à imaginer qu'elle n'ait d'autre but que la reproduction, que les caresses soient parfaitement accessoires et le plaisir pour le plaisir, comme disait Herbert Léonard, superfétatoire, que sans phallus, point de salut, et qu'on en revient toujours à des scénarios écrits par les hommes et pour les hommes, que ce soit le Titanic ou la Bible, eh bien il n'y a qu'un pas que je franchis maintenant. Alors vous savez quoi, Fabienne?
Ça, on n'est pas peur, vous.
Je vous souhaite de bonnes fêtes avec tout plein de préliminaires pour tout le monde.
Eh ben écoutez, formidable, vous reviendrez à Noël.
Mais j'espère bien.
Justement, avec plein d'autres cadeaux du même genre. J'ai presque envie de dire hélas, mais non, pourquoi hélas? Allez, bonne fête.
Le 18-20, Fabienne Saintès, sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, vous allez nous parler de Chine aujourd'hui, de ce fameux grand discours de Xi Jinping, donc qui est censé célébrer ses 40 ans d'ouverture de la Chine, donc depuis 1978. Sauf que peut-être qu'il y a un peu de doute désormais dans la tête des Chinois.
Alors, comme toujours, c'est d'abord la grande unité du parti qui s'affiche. Nous sommes tout de même en Chine, hein, madame, dans l'immense salle du Palais des Peuples, sous de gigantesques tentures rouges. Xi Jinping s'est donc livré ce matin un exercice d'autosatisfaction. 1h30 de discours pour célébrer les gigantesques progrès de la Chine en 4 décennies. Et c'est vrai, il y a bond de géant. Le revenu moyen a été multiplié par 20, le produit intérieur brut par 37. La part de la Chine dans la richesse mondiale est passée de 2% à 16%. Donc Xi Jinping, sur un ton martial, a enchaîné les formules. Personne ne peut donner de leçons au peuple chinois. Le grand drapeau du socialisme flotte sur notre terre, etc. Tonnerre d'applaudissements, évidemment, de la part de tous les délégués. Et pour faire bonne mesure, à la sortie de la salle du Palais des Peuples, une grande exposition célèbre ses 40 ans de réformes économiques de Deng Xiaoping à Xi Jinping. Bref, en apparence, la Chine est forte et ne doute de rien. En coulisses, c'est un peu plus compliqué.
Ouais, d'abord parce que l'économie ralentit.
Oui, de mois en mois, ça se dégrade. 6,5% de croissance lors de ce dernier trimestre, seulement 6% envisagé pour l'an prochain, et sans doute en fait que la réalité est plus proche des 5%. Ça reste très au-dessus des États-Unis et de l'Europe, mais ça se ralentit régulièrement. On est très loin des 14% de l'année 2007. La production industrielle tousse un peu, les ventes d'automobiles reculent, le pouvoir censure la publication de certaines statistiques. Du coup, dans les milieux économiques chinois, certaines voix s'inquiètent, appellent à de nouvelles réformes. Le pays souffre en effet de plusieurs problèmes structurels. La productivité est faible, le secteur bancaire est sous perfusion de l'État, l'endettement cumulé public-privé est devenu colossal. Enfin, la Chine est très dépendante désormais de ses exportations et c'est son talon d'Achille dans la guerre commerciale avec Donald Trump. Ajoutons enfin la récente arrestation au Canada de la directrice financière de Huawei. C'est pas anecdotique, hein. Cette arrestation, elle montre que la guerre est déclarée sur le vrai sujet, c'est-à-dire la concurrence technologique, l'intelligence artificielle. Et d'autre part, elle met en pièce l'idée que la Chine serait invulnérable. Donc oui, derrière l'unité de façade, il y a des doutes à Pékin.
Et donc, ça peut conduire où, ça?
Alors là, mystère et boule de gomme, parce que le pouvoir chinois est opaque. On peut résumer l'enjeu quand même. Le modèle chinois, je mets modèle entre guillemets, c'est le libéralisme économique combiné à l'autoritarisme politique. Ça marche tant que l'économie carbure, que la croissance est au rendez-vous, parce que les Chinois y trouvent leur compte. Si ça tousse, ça se complique. Et après ce discours de Xi Jinping, va se tenir en fin de semaine la conférence centrale sur le travail économique. Et c'est là, à huis clos, que la suite va se jouer. La question, c'est de savoir si la Chine va engager de nouvelles réformes pour relancer la croissance. Alors, Xi Jinping l'a promis, mais il n'a pas précisé quelles réformes. Il est resté flou. Il y a plusieurs hypothèses. Une plus grande ouverture du marché chinois aux entreprises étrangères, un plus grand respect des règles de la propriété intellectuelle, une liberté accrue pour les entreprises privées, et des évolutions de ce genre auraient des effets en chaîne pour l'économie mondiale. Mais il y a un gros mais. Xi Jinping n'engagera pas les réformes économiques qui pourraient déclencher des revendications en termes de liberté publique. Donc la question centrale posée au pouvoir chinois, c'est d'évaluer le risque politique de nouvelles réformes économiques. Parce qu'à Pékin, le contrôle politique passe avant toute autre considération.
Jean-Marc Fouré, Le Monde à l'envers, merci beaucoup. On se retrouve demain, nous on reste ensemble. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne. Et juste avant, le journal de Sébastien Paour, car il est 19h.